Et bonjour à tous et bienvenue dans Critique Biaisée, ce nouvel épisode sur Love, Death and Robots, le barbecue dans lequel nous allons détailler des épisodes, nos épisodes préférés. Chaque membre du crew, chaque membre du cast va nous expliquer pourquoi il a choisi cet épisode, pourquoi il l'aime, et les autres vont pouvoir ajouter leur petite dose de malice, hein, n'est-ce pas? Le plus malicieux d'entre nous, salut Romain!
Hey, salut tout le monde, le malicieux, c'est moi, c'est bien ça.
Romain le malicieux, Pierre le fourbe.
Et salut, lui-même.
Benjamin le jovial.
Oui, bonjour.
Et Olivier l'astico.
je sais pas quel bruit c'est faire. Bon, quel bruit fait l'astico?
Salut.
Spritch.
Un truc comme ça.
C'est quoi ce descriptif d'astico?
je sais pas d'où ça sort, et ça m'a fait vraiment penser à des sons très dégueux.
Voilà. Mais voilà, c'est Love, Death and Robots et moi-même, Toto, le robot. Qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce qu'on se marre. Vous allez passer avec nous plusieurs minutes de vos vies. Restez là.
Vous êtes parti là, je pense. Hein.
Peut-être faut que tu restes sur tes trucs avec Cool Chain. C'est peut-être pas plus mal.
Est-ce qu'Olivier Lastico et Toto le robot, ça fera un bon épisode de Love, Death and Robots?
J'ai des rimes des enfants de 6 ans et alors c'est... Bon, donc nous allons chacun parler, les amis. Je vous propose de commencer par Benjamin et Pierre. Vu que vous avez le même épisode préféré, vous allez nous en parler tous les deux. Vous faites souvent des duos, j'ai l'impression. Vous êtes un peu comme Batman et Robin, spoiler alert pour le prochain épisode de Critique Biaisée.
C'est beau.
Moi j'aurais dit Menus et Cortex, mais...
Et qui est qui?
Oh, j'avoue.
Ah bah moi je suis Menus.
Bah à ton avis.
Moi j'ai mon idée, mais bon.
Moi aussi. Je doute que nous ayons les mêmes. Alors
votez sur Apple Podcast dans les commentaires, s'il vous plaît, avec une note 5 étoiles.
Et n'oubliez pas de préciser pourquoi vous pensez que c'est moi Menus et...
Ah d'accord. Donc c'est toi Menus.
Ah non, c'est l'inverse.
Donc c'est bien Menus.
Allez, voilà. La révélation.
Non, bah là, c'est sûr.
Non,
c'est très bien joué.
Il l'a trouvé en une phrase.
C'est la fièvre qui parle pour moi.
Menus et Cortex, parlez-nous de votre épisode préféré, Pop Squad, de Love, Death and Robots, qui a remporté la note de 7,4 sur 10 à Critique Biaisée, épisode de hors d'œuvre. Pierre, je te laisse la main peut-être, et Benjamin, de toute façon, tu vas critiquer, tu vas être là, c'est pas bien.
Ouais, comme d'habitude, c'est mon connard.
Il pourra se lâcher sur les points de très bonne foi que j'aurais fait. Enfin bon, Pop Squad, moi j'ai bien aimé. Donc ça se passe dans un futur qui est très dystopique, qui serait même presque borderline cyberpunk si on avait un peu plus de robotique, quoi. Mais qui frôle le genre sans trop s'y avancer. Où les plus riches prolongent leur vie artificiellement et où le fait d'avoir des enfants est interdit à cause d'excès de population et de manque de ressources. On ici une espèce d'escouade qui visuellement est entre la police d'État et la Gestapo, et on se rend compte après quelques minutes que en fait ils sont là justement pour maintenir cet excès de population et éviter qu'il y ait de nouvelles têtes qui apparaissent sur Terre, aka tuer des enfants. Alors on nous balance ça dans la tronche à un moment et tu le comprends en mode ah ok. Et tu pars de ce constat et tu suis un personnage qui, au final, est complètement dégueulasse dans un espèce de petit chemin de rédemption où il réalise un peu, en se disant qu'il a vécu des centaines d'années, etc., que est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer comme ça? Et il est absolument de plus en plus ébahi par ces petites vies que sont les enfants, jusqu'au moment où il prendra la décision de partir à contre-courant de tout ce qu'il a fait au cours de sa vie et de, sans trop même réaliser pourquoi lui-même, donner sa vie pour protéger un enfant qui sera quand même de toute manière sûrement tué dans 10 minutes plus tard. Mais quand même, ça nous montre une petite rédemption story dans laquelle je suis particulièrement friand. Moi, j'adore ce genre d'histoire où on suit un personnage qui est moralement tout à fait répréhensible, mais qui finira par essayer de prendre des quote-unquote bonnes décisions. L'univers en lui-même est assez prenant. Le style visuel, c'est pas peut-être le plus travaillé par rapport à d'autres épisodes, comme Snow, dont va parler Romain, mais quand même, c'est un style un peu noir, presque mid-années 90, qui m'a assez plu. Et puis toute la contraste avec cette espèce de monde d'en haut et la surface de la Terre qui a l'air complètement désolée, ça donne un petit truc visuel qui est vraiment top.
J'ai une petite question. T'as parlé de rédemption. Et je sais pas comment vous l'avez vu, puisque je pense qu'on l'a tous vu là autour de la table. Toi, Benjamin, c'est le seul que t'as vu, donc.
Bien sûr.
Pour vous, est-ce que c'est vraiment une rédemption ou est-ce que c'est plus, tu sais, ça.
Tentative.
Moi, la manière dont je l'ai vu, c'est plus. Donc, c'est des gens qui potentiellement ont des centaines et des centaines d'années. Et tu sais, comme une forme aussi de. Je suis fatigué, quoi. J'ai presque trop vécu finalement. Et en fait, maintenant, c'est beaucoup de noirceur et plus tellement de trucs cool qui me restent à vivre parce que forcément, pour soutenir un monde comme ça, t'as aussi la noirceur évidente qu'on te met devant, qui est de tuer des enfants, mais même le reste, en fait, tu te dis, en fait, comment tu gardes la pêche quand t'as déjà tout fait, tout vu, tout vécu. Donc moi, je me suis posé la question s'il n'y avait pas ça plus que le côté j'ai envie de sauver la vie d'un enfant, quoi.
Je sais pas, parce qu'il y a cette espèce de moment dans l'échange du dialogue qui avec la mère, justement, qui va épargner avec son enfant. Il y a ce petit côté genre elle a la lumière dans les yeux là où vos yeux sont morts, et en fait t'as l'impression qu'il est en train de retrouver justement cette petite lumière au contact de l'enfant et au discours de la mère, et il commence à comprendre entre guillemets que tu sais, c'est pas des animaux en fait, quoi, parce que t'as l'impression toute la série ils appellent les pondeurs, je crois, ce truc comme ça, et les pondeuses, et ouais, donc moi je le vois comme ça en rédemption, parce que du coup il passe du statut de chose un peu abjecte à en fait non, ce sont des humains, tu vois, il y a pas de, donc ouais.
Ouais, non, mais justement, je pense qu'il y a une tentative de rédemption.
Mais justement, c'est ça que je sous-entends. Tu vois, justement, de dire quelqu'un qui a déjà vécu longtemps, parce qu'il a un enfant, il amène de la nouveauté. Et effectivement, dans l'échange entre la mère et le mec, on voit bien qu'elle lui explique qu'elle redécouvre la vie via les yeux de l'enfant, puisqu'elle voit l'enfant s'émerveiller, elle voit, etc. Donc en fait, j'ai l'impression que le propos, en tout cas de mon point de vue, c'est beaucoup plus... le mythe de l'immortalité et ce que ça ferait sur la condition humaine, que réellement est-ce qu'il faut pour ou contre, vous pouvez voter aussi dans les commentaires, faut-il tuer les enfants ou pas, et je pense que c'est le sujet.
Mais je pense qu'il y a un peu de ça, et ça reprend un peu le thème d'Alter Carbon avec qu'est-ce que ça causerait chez l'humain le fait de vivre des centaines d'années, et je pense que t'as un peu raison, c'est-à-dire que au final il commet une bonne action quote unquote, mais pas forcément pour des bonnes raisons, c'est-à-dire qu'on sait pas trop ce qui se passe dans sa tête, peut-être que c'est une façon pour lui d'essayer de chercher la rédemption, ou peut-être que justement comme tu dis, il se dit j'en ai marre, je veux arrêter tout, autant partir avec des étincelles, mais dans tous les cas les conséquences sont que il commet une bonne action, c'est peut-être un anti-héros au final.
En termes du coup, Benjamin, qu'est-ce que t'as pas aimé?
Dans celui-là, c'est parce que c'est celui que j'ai choisi, c'est justement celui où j'avais le moins de choses à dire de mauvais. Le seul problème en vrai que j'aurais avec cet épisode, c'est que j'aurais aimé non mais si c'est pas, non, vous allez voir, je suis pas en négatif sur tout le truc, c'est juste souvent des gros points noirs, quoi, mais là pour celui-là le seul problème que j'ai, c'est que j'aurais bien 10 minutes de plus pour,
tu vois, je viens de me dire, peut-être qu'en fait t'as déjà vécu 600 ans et ça expliquerait 2-3 trucs.
C'est exactement ça.
En vrai, on vient de comprendre pourquoi t'es en mode non, mais ça, franchement, pas ouf.
Alors bon,
je suis d'accord, parce que le point commun qu'a Benjamin avec ses personnages, c'est un manque parfait d'empathie. Et je pense qu'on peut.
Et surtout, un superbe manteau noir long. Et c'est d'ailleurs là-dessus que je voulais partir, c'est que c'est ce qui est très intéressant dans cet épisode. C'est que moi, je sais pas comment vous l'avez vu, mais moi, j'ai vu des gros relents de Seconde Guerre mondiale, de nazis, et même dans l'idéologie qu'ils ont. Même si jamais c'est pas la même, on retrouve en fait ce culte en fait de l'humain parfait, justement, de l'humain immortel, de l'humain pur, qui ne vieillit pas, qui ne meurt pas. Et j'ai beaucoup aimé en fait ce trait. Enfin, si jamais on se mettait en place le même personnage avec un brassard nazi au bras, en fait ça donne quasiment le même discours en fait et quasiment la même profondeur au truc. Et j'ai trouvé ça justement assez bien géré, tu vois. Ça fait un mélange en fait où ça te montre que être un SS ou être quelqu'un, tu vois, qui a des idées un peu, qui s'inscrit un peu plus dans, je sais pas comment expliquer, dans la loi ou dans, tu sais, dans l'ordre établi.
Où tu vas là?
Non, mais laissez-moi finir. Vous allez voir, il y a aucun dérapage. Ça tient en fait à très peu de choses. En fait, c'est que tu peux te persuader d'être dans le vrai, dans le bon et dans le juste, et te rendre compte à un moment donné, snapper sur un détail, te dire mais en fait je suis une énorme merde, je suis un monstre, tu vois. Et c'est ce que, à la fin, il commence à réaliser, en fait. Et je trouve ça intéressant, en fait, de pas juste le traiter en mode, regardez, il a tous les signes qui font que vous allez pas l'aimer dès le début. Sans te le présente comme un flic au début, tu vois, pas comme justement
Un peu l'anti-héros, comme disait Pierre, quoi. Le côté un petit peu.
Ouais, pour moi, c'est un anti-héros.
Moi, ça m'a fait penser à Equilibrium dans le même style, où grosso modo, Equilibrium, t'as une police d'État. En fait, les émotions propagent les guerres. Du coup, ils tuent les émotions. Et du coup, t'as une police qui doit assurer le fait que les gens ne reçoivent pas d'émotions et prennent des espèces d'injections, machin. Et t'as des personnes qui vivent en dehors de la ville pour, justement, ils sont un peu de côté de la société, etc. Et lui aussi, il trouve sa rédemption dans... il tombe à un moment donné sous le coup des émotions. Il se rend compte que c'est magnifique et que la vie, c'est pas la vie telle qu'ils ont décidé de la créer, mais bien ressentir des choses, etc. Moi, ça fait penser à ça, vraiment, le côté quand il voit l'enfant, etc. Voilà pour le machin.
Okay, d'ailleurs, cool. je rebondis juste sur ce que disait Pierre, parce qu'il a parlé d'Altered Carbon. Et oui, en fait, la mini-série là tire tout son univers quasiment de ce roman de Pierre Richard, j'allais dire.
Pierre Richard, ça peut être bien, ouais.
C'est Car Richard, je crois. C'est Car roman à la base, du coup. Et l'univers est basé de ça. Donc, forcément, il y a les liens. Qui a d'ailleurs été une série qui était plutôt pas mal aussi.
Qui était d'ailleurs bien, un peu gâchée, mais...
Oui, la saison 1 était très ouais. bien, la saison 2...
La 2, je sais pas.
Ils ont changé d'acteur en plus, donc gros bordel. C'est
ça.
Quoi,
et la, bah après, et la ça, saison ça colle 2 au principe, de la série dont on parle aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'épisodes qui prennent... Enfin, qui sont inspirés de bouquins, je crois. Ils sont tous...
Même la saison 1, de souvenirs.
Ah, aussi ? Ok, ça a été moins évident pour moi dans la saison 1. J'avais l'impression qu'il y avait plus de création.
Après, je n'ai pas vérifié pour tous, mais beaucoup, je me suis intéressé. En général, étaient tirés de nouvelles ou de parties de romans. Celui-là, je ne l'ai pas regardé pour Pop Squad, donc je ne savais pas que ça allait venir avec Altered Carbon. Mais...
All right, on enchaîne, tant pis pour que le chaîne. Olivier, raconte-nous ton épisode favori. Et afin de rendre le dynamique de ce podcast, n'hésitons pas à nous interrompre, hein, je le dis, au vu de tous. Voilà, pas les monologues sont sympathiques, mais...
Je vais dire ta gueule, Olivier, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci.
D'accord, donc okay, chacun aura un petit cri et ta gueule donnera la parole à Benjamin.
Ça va être bien. yes, ok, The Drone Giant. Du coup, bah, c'est l'épisode... Je crois que c'est le dernier épisode. C'est le dernier épisode de la saison 2, qui commence avec le corps d'un géant, donc vraiment un géant, c'est un bonhomme, il est très grand, donc je viens de quand même de vous décrire.
C'est un géant, bonne définition du géant.
Moi je savais pas, merci, heureusement, c'est vraiment... Wow.
Mais il nous prend vraiment pour des cons à ce point-là, en fait, quoi, c'est...
Un bonhomme très
grand. Ça résume déjà l'épisode, il y a un géant.
Voilà. Donc, je pensais
merci
que c'était
Olivier,
le principal truc que j'avais.
Alors, mon épisode.
Oh, ça va être long.
Ça va être long. Donc, c'est un géant.
L'épisode
un homme très grand.
Donc, l'épisode commence avec le corps d'un géant qui est échoué sur une plage. Donc, pour se le figurer, il suffit de penser un peu à ces images qu'on a tous vues, tu sais, d'une baleine. Donc, c'est vraiment des proportions immenses, un corps inerte, etc. Et du coup, rien que cette image-là, elle est assez fascinante, je trouve. Et moi, je dois avouer que cet épisode, il m'a fasciné. J'ai scotché dessus parce que même la narration, etc. Il y avait une vraie ambiance qui était folle. L'histoire va jamais adresser finalement un truc qu'on... Enfin, quand l'épisode démarre, on se dit ça y est, ça va être une investigation sur les origines du géant, d'où ce qui viennent, etc. Pas du tout. On s'en fout. C'est pas ça le propos. À la place, le narrateur, il va décrire la scène, cette fascination qu'ont les habitants, surtout au début, pour ce géant échoué dans de ses eaux. La décomposition qui va s'opérer sur plusieurs semaines, comment les gens autour, finalement, ils commencent à réagir très différemment à la vue de ce géant. Donc, on les voit grimper sur le corps, on voit donc très déshumanisés, finalement. On les voit taguer, on les voit découper les parties, fabriquer des totems, etc. Donc, ça, c'est un peu l'histoire de cet épisode. Et moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est... comment ils ont utilisé en fait l'horreur et le macabre. Alors c'est tiré là aussi d'une nouvelle. Hein. Ils ont utilisé l'horreur et le macabre en fait pour faire un super miroir à la question d'identité humaine. En fait, une des questions, un des thèmes phares de la science-fiction, c'est qu'est-ce qui nous rend humain, quoi. Et on vient un peu d'en parler avec l'épisode
décrit
juste avant.
Est-ce que c'est pas plutôt tiré de Gulliver?
Mais il y a pas de.
En vrai, mec, j'ai vu Gulliver tout le truc. Hein. J'étais en mode bah oui.
Le mec
géant allongé avec les petits mecs autour de lui qui sont ah c'est quoi ça
Gulliver. Moi j'ai plus vu un mélange entre un Spielberg avec le bon gros géant et un conte des frères Grimm un peu noir du coup. Je vois bien le mélange des deux en fait.
Moi ça m'a plus fait penser à un conte effectivement. Plus qu'à Gulliver.
Mais Gulliver est-il un conte Benjamin?
Il y a un géant, c'est le seul point commun.
Critique biaisée.
Bientôt, ouais, il va nous parler du géant vert, alors attendez, ça va arriver.
Ça m'a fait penser à du maïs, c'est vrai.
Moi, j'ai eu très très faim pendant tout l'épisode.
Donc ouais, bah, du coup, moi je trouvais ça cool parce que ça pose la question de ce qui nous rend humains, nos réactions, ça questionne
du coup,
nos
taille.
Réactions face à ça, notre taille, qu'est-ce que... En fait, est-ce que... Tu sais, c'est un peu le mythe de Thésée avec le bateau, c'est... si t'enlèves en fait un bras, est-ce que c'est toujours un individu, la tête, ensuite tu finis par vraiment le désosser et il restera plus que les os à la fin, etc., qui vont finir par réapparaître à des endroits de la ville. Et en fait, ce qui est vachement intéressant aussi, c'est que finalement, quand le géant est entièrement démembré et que ses parties réapparaissent, sous forme plutôt de totem, on voit que du coup, c'est plus du tout spectaculaire pour qui que ce soit. C'est un événement qui était finalement si incroyable au début est devenu complètement... banal. Et donc, tu vois, ça questionne aussi notre rapport à ce qui peut se passer dans le monde et notre fascination pour des sujets ou pas. Et tout à l'heure, tu parlais, Benjamin, de comment...
Gulliver,
ouais. Non, mais tu sais, comment on avait... l'épisode d'avant, il questionnait un peu le rapport à l'homme parfait, etc. Mm. Moi, j'ai trouvé que dans celui-là, il y avait aussi cette question un peu sous-jacente, quoi. En gros... par exemple, quand le narrateur il découvre pour la première fois, il commence à décrire le visage de cette personne-là avec un langage qui est pas sans rappeler les heures sombres de cette fausse science qui était la physionomie, où on se disait que en décrivant les caractéristiques de ton visage, on pouvait déduire tes traits de caractère, etc., etc., qui a vraiment servi au racisme institutionnalisé. Donc, on est vraiment au fondement des théories scientifiques en fait qui amènent les pires trucs de l'histoire, quoi. Et donc j'ai trouvé ça vachement intéressant.
Ça questionne tout ça. Il fait très chercheur des années 1800 et quelques, d'ailleurs.
Dans la manière de parler, etc.
C'est du vieil anglais. Ouais. Il utilise énormément d'euphémismes. Il utilise volontairement très peu de langage scientifique. C'est beaucoup plus imagé et poétique. Donc il y a un truc chercheur des années 1800, mais à la fois il conduit une voiture, on voit de la science. Mais il n'y a pas de scientifique sur place, il n'y a pas de police. En fait, il y a quand même un univers un peu...
C'est assez marrant d'ailleurs.
Étrange. Mais je pense que c'est volontaire, quoi. Ouais, que c'est fait pour montrer que c'est pas notre monde à nous. Bah, la preuve, il y a des géants. Ça, c'était un petit subtil, tu vois.
C'est un
homme très grand.
C'est globalement, c'est une personne. C'est presque c'est comme une personne, mais en beaucoup plus grand.
Ah oui, d'accord. Ah
ouais.
Okay.
Un géant, c'est 50 Olivier.
50 Olivier. Ah oui, ça fait beaucoup. Wow. Du coup, il parle 50.
Oh la vache. Mais
alors, d'après ce que la série veut nous dire, à partir de combien d'Olivier tu n'es plus humain?
Ah bah, c'est de un Olivier, et j'aime bien.
Et tu vois que c'était de l'anglais. Déjà, tu vois que c'est de l'anglais britannique, tu sais, parce que là-bas, ils comptent en pouces, en pieds, etc. Et puis ils comptent en Olivier maintenant. Tu vois, ils ont vraiment continué l'absurde.
C'est dystopique. En fait.
De mesure,
on est dans un monde où l'Olivier est la mesure, quoi. C'est une mesure de temps, c'est une mesure de taille. C'est pas mal. Moi, ça a fait penser.
Quelle horreur!
Ça m'a fait penser à The Leftovers dans la. En fait, j'adore les trucs où il y a quelque chose qui se passe de complètement dingue et en fait, t'adresses pas le sujet. Et ça, putain, moi, je suis ultra client ce truc-là. Genre, on te le pose comme ça, et du coup, t'as pas... C'est brain fog, parce que dans toutes les séries que t'as pu voir ou les films, tu cherches l'intrigue, tu cherches le dénouement, tu vois. C'est quoi le troisième acte? Tu vas faire « Waouh, j'ai tout compris! Wouhou, il y a des extraterrestres !» Et en fait, pas du tout. Du coup, t'es complètement emballé dans ce truc-là. J'adore ça, quoi.
Et en plus, t'es souvent déçu dans ce genre de série quand t'as une intrigue super mystérieuse pendant une ou deux saisons et d'un coup tu sais pourquoi, t'es en mode voilà, tout ça pour ça.
La réponse, c'était la religion depuis
le
début.
Mais là, c'est vrai que dans ces machins, je trouve que c'est mieux effectivement de laisser planer le mystère. Et puis là, clairement, l'attrait, au-delà des thèmes humains que tu soulèves, c'est clairement la narration qui te prend, c'est un peu presque un peu contemplatif. Enfin, t'es vraiment dans le truc, quand j'observe. Je suis la vision du narrateur et moi j'ai bien.
Moi, ça m'a fait de l'ASMR de ouf. J'étais en kiff. Franchement, j'ai halluciné. J'ai scotché sur l'épisode et je pouvais pas. J'étais fasciné, quoi. Ce qui m'arrive rarement. D'habitude, j'ai toujours mon téléphone pas loin. Je fais d'autres trucs. Là, j'étais vraiment dedans, quoi.
Et je pense que la narration.
Il paraît que t'avais pas ressenti ça depuis la Vaïa, c'est ça?
Oui. Et depuis, là, c'est la dernière série recommandée par Thomas aussi qui m'a.
Et d'ailleurs, c'était le même studio que Pop.
Qui est vachement bien.
Voilà, c'était.
Mais alors, attends,
c'est Blur Studio, c'est ça.
C'est Blur Studio.
Ça se voyait qu'il y avait des grosses.
Je sais plus où j'ai lu ça, mais en regardant des trucs pour Pop Squad, il me semble que quelqu'un avait fait un lien entre les deux univers de celui du géant et de celui de Pop Squad. Alors, je sais plus comment. Et mon travail de recherche laisse à désirer.
Merci,
mais j'avais
Pierre.
Lu ça quelque part.
Peut-être. Et donc, les deux univers.
Je vous compte en Olivier.
Je crois avoir repéré dans Pop Squad qu'ils ont dit cet enfant n'est que un tiers d'Olivier. Ah
oui, tout à fait. Ils ont commencé le lore comme ça. Moi, j'ai.
Ouais.
Wow. Olivier en plein démo, pardon, peut-être un peu un joke récemment dans une startup que nous sommes en train de créer. Nous ferons la pub sur Critique Biaisée, bien entendu. Nous parlons de l'offre et voilà, évidemment. Très bien, enchaînons. Tant pis pour coup de chaînon. Romain, quel est ton épisode favori?
Ouais, on va y aller. Moi, ils ont parlé grave longtemps des épisodes. Moi, je sais pas, ça va durer 30 secondes à peu près, je pense. Donc, moi, tu sais, c'est un peu le syndrome. Tu es à l'école, au tableau, t'es là, bah attendez, je sais pas quoi dire en fait.
Chacun des mots que tu vas employer. Si par exemple, il y a le mot géant,
c'est ça.
Tu peux expliquer.
Il y a pas le mot géant, comment je fais?
Bah, et puis, dès que tu donnes l'unité de mesure,
je te donnerai la
compte en Olivier.
T'inquiète.
Olivier Larousse.
Donc, moi, ce que j'ai aimé, c'était Snow in the Desert, donc Snow dans le désert en français. Voilà, je préfère traduire.
Merci beaucoup.
Tu vois, ça peut durer longtemps. Tu
on vous prend pas pour des cons, mais.
On pouvait pas savoir, en fait. C'est vraiment de l'anglais soutenu. Et Cocorico, c'est français. Et je le savais pas avant de le regarder, mais c'est français. C'est Unit Studio, un studio parisien hyper réputé.
Ah, c'est pour ça.
Et d'ailleurs, juste pour, ça m'a fait rire parce que mon épisode préféré de la saison 1, c'était Derrière la faille, je sais plus le nom en anglais, Beyond the Aquila Rift, je crois.
Ah oui,
et qui est aussi le même studio
ça.
En fait. C'est le seul épisode de ce studio, donc en fait, je crois que j'aime ce studio. Voilà, j'aime la France, voilà, bravo.
C'est la déclaration.
Alors, vous aimez des trucs américains, c'est pas bien beau. Et voilà, je préfère vous le dire.
Allez, tu seras la Marseillaise en fond pendant que tu parles.
Je rate pas Netflix, je regarde Salto, moi. Alors.
Putain, le
vendeur. C'est toi. C'est toi. Cherchons un sponsor.
Je suis le seul abonné premium. Donc Snow in the Desert, on commence avec on voit Snow, donc qui est il est albinos, j'ai l'impression, je ne sais pas trop.
Ouais,
albinos,
bien, oui.
Au milieu d'un désert grave aride, ambiance Mad Max, ambiance un peu Mad Max Star Wars et un peu des deux, un peu Mandalorian, je trouve, sur des points.
Ah là aussi.
C'est canon ou pas?
Donc on le voit, on le voit récupérer des trucs dans une ville, on le voit qu'il est recherché. Et ça va mal tourner dans un bar. Donc c'est ce bar qui me fait vraiment penser à Mandalorian pour ceux qui ont regardé la saison 2. C'est quasiment le même. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment le même. Je pense que le petit clin d'œil est assez grand. Et là, on comprend qu'il est recherché et ça va partir en cacahuète dans ce bar. Mais il est
ou en couille.
Ou en couille, peut-être, oui.
Ah, justement.
C'est beau.
Oui.
On va se rendre compte plus tard qu'en fait, il est recherché d'ailleurs pour ses couilles. parce qu'elle sécrète un petit liquide qui fait que ça le rend.
Attention où tu vas quand même.
La pente est glissante.
Je pars sur un chemin compliqué.
Je commence à comprendre pourquoi il a choisi cet épisode, je crois.
Ce liquide
je pense qu'il a pas téléchargé la bonne version.
J'avais pas du tout vu ce truc-là.
Ils vont se déshabiller et le liquide va sortir. Ça devient horrible.
Cet épisode est sponsorisé par Pornhub. Bonjour à tous.
L'épisode est interdit au moins de 18, comme la série. Hein. Donc, si vous avez moins de 18 ans, vous n'avez rien à faire là. Donc, voilà, ok. donc, il est recherché, oui, parce que ses couilles le rendent invulnérable. Hein. Il est là depuis des milliers, des centaines d'années. Il va rencontrer, c'est le bordel l'épisode, là vraiment on sent le mec qui dit n'importe quoi dans le désordre. En même temps il va rencontrer une fille qui s'appelle Harild, qui veut l'aider au final
et qui est jouée par l'actrice de Planqueur. Voilà,
oui, Vita Unroth, c'est exactement ça.
C'est vrai
d'ailleurs, oui c'est elle, oui. Et ah, la mocap, c'est de la mocap. Et d'ailleurs, l'acteur qui joue Snow est un acteur finlandais hyper connu en Finlande. Alors je peux pas vous dire, mais je suis pas finlandais, donc je sais pas. Mais voilà, il est connu là-bas. Et okay. Je sais plus comment je m'en sors là. J'en suis où?
Il a rencontré
une fille dans le désert, c'est ça.
Il a un planqueur
au bar même.
Planqueur dans
bar,
le désert.
Ouais. Planqueur.
Ce sera le nom de l'épisode. Planqueur dans
le désert. C'est pas mal, ouais. Bref, elle veut l'aider. Elle lui dit, moi, je veux t'aider parce que tes couilles peuvent servir.
Voilà.
Elles peuvent être utiles à des gens.
Putain, on passe de l'épisode avec Olivier qui nous fait une plongée sur la nature humaine. couilles de Snow dans le désert.
Putain, mais en vrai, voilà ce qu'on a, voilà ce qu'on obtient quand on improvise totalement un épisode.
Non, puis moi j'aime bien cette ambiance un peu bar PMU, tu vois, ça me rappelle une émission.
Les burnes, quoi.
Ouais, le terme de...
C'est mais de Darwin à Bigard, quoi.
On a Bigard qui arrive en guest, ouais, voilà. C'est ça.
C'est notre sponsor de le... Voilà. Donc Romain, les couilles.
Oui, les couilles peuvent être intéressantes pour des terriens. Voilà, a priori, c'est ce qu'on en retient. Moi, j'ai retenu que ça. Mais ça me paraît normal en même temps. Donc bref, il lui dit ok. Il lui dit, voilà, après ils vont dans une cahute. Ils font des trucs avec les boules. Bah voilà, c'est la vraie vie, hein, pas rien. C'est la série, ça se passe comme ça.
J'en ai marre de toi.
Ça devait durer 30 secondes. Hein.
Oui, moi j'ai rien à dire.
Voilà. Ils utilisent les boules, à bon escient, a priori. Mais
forcément.
Juste après l'attaque, avec les boules, une petite attaque apparaît. Et voilà, et c'est les méchants qui veulent chercher les autres. Et aussi, ils veulent des boules. En fait, tout le monde veut des boules dans cette série, c'est trop relou. Donc, il va se taper à mort avec des gars. On se rend compte que, bah voilà, il se fait blesser, mais aussi, il heal plus vite. Donc, il se régénère rapidement. C'est magnifique, tout est beau. Et à la fin, Aril vient l'aider parce qu'elle se dit, moi, je reveux des boules. Quand même, faut pas qu'il meure, c'est normal. Et voilà, puis bon, bref, il y a d'autres histoires dedans, mais on s'en fout. C'est surtout les boules qui est le principal, je pense. Vraiment, l'histoire d'amour, sa femme est morte il y a 200 ans, c'est pas hyper intéressant.
Et il mange des fraises aussi. Hein.
Alors, la vache. Les fraises, c'est vrai, les fraises.
Ouais. J'ai l'impression que si je résume ce que tu viens de nous raconter, c'est couille, boule,
porno.
couille.
C'est clairement une histoire de boule. Hein.
Balls the story. Non,
ça raconte des trucs plus intéressants. Bon, bref, on comprend qu'il a fait 300 ans qu'il est là. Sa femme est morte, bah, du coup, comme une personne normale. Donc, et que du coup, il est un peu solitaire, il s'attache à plus personne. C'est pour ça qu'il vit en ermite. Et à la fin, on apprend que Arild est un... Il lui reste en vrai le tronc nerveux et son cerveau.
Ouais.
Bah non, parce qu'elle n'est pas totalement synthétique, c'est pas vraiment cyborg.
Cyborg, c'est pas totalement synthétique, c'est un mélange.
C'est vrai, ouais.
Mais non, mais c'est
que
ça,
du coup, ils peuvent vivre ensemble toute la vie ou toute l'éternité, parce que personne ne meurt. Vive les boules, voilà, à vous.
Ok.
Mais du coup, attends, c'est quel épisode que t'as décrit? C'est celui de l'épisode de Noël ou c'est je suis perdu.
Il s'appelait Boule dans le désert. Après, je sais pas lequel vous avez vu vous.
Parce que ça me fait penser, tu sais, il y en a un sur le Père Noël.
Il est trop bien celui-là. Je l'aime beaucoup celui-là.
Il était très mal
joué. T'arrêtes pas de parler de boules. Moi, j'étais perdu. Je crois.
Il y a des enfants. J'aurais peut-être pas
oublié. Romain, je viens de réaliser à cause de toi que l'épisode, ça fait littéralement, il parle des boules de neige. Littéralement, en fait. Tout l'épisode parle de boules de neige. Des snowballs.
C'est une traduction. Après les définitions de traduction.
Envie, ceux qui l'ont pas vu. Tout le monde va aller voir l'épisode, ils vont se dire, mais attendez.
Mais c'est quand est-ce que ça baise.
Non, ils vont dire, c'est exactement ce qu'il a décrit, c'est impressionnant.
Nous vous laissons le choix de regarder cet épisode et de nous dire sur les réseaux sociaux ce que vous en avez pensé, si c'était à la hauteur de la description de Romain Boule de Peigne.
Bon, vous avez pensé quoi sinon? Non, mais personne ne dit ce que j'en ai pensé. Moi,
il y a un truc que j'aimerais dire, c'est cet épisode, je pense, qui m'a mis le plus mal à l'aise de toute la saison. Parce que j'ai passé tout l'épisode à me dire putain, c'est beau et tout, mais j'étais dans l'Uncanny Valley. J'étais vraiment dérangé pendant tout l'épisode entre c'est trop proche de l'humain et en même temps, tu sais, j'avais des moments où je snappais la différence entre l'animation et les vrais acteurs. On est d'accord qu'il y a des vrais acteurs dans le truc, je suis pas fou.
C'est de la mocap.
Oui,
mais c'est pas des vrais acteurs, c'est de la mocap.
Mec, je te promets que.
Oui,
là,
non, mais ce qu'il veut dire, c'est que c'est basé sur le visage de Vincent.
Non, je pense qu'il veut dire qu'il y a des vrais acteurs.
Voilà, pour moi, j'étais persuadé qu'il y avait au moins deux personnes qui étaient en réalité.
Et qui portaient des costumes. Ils portaient des costumes en mode. Ils étaient sur un fond vert, ils mettent un costume qui ressemble à une 3D. Pas mal, mais pas
le jeu vidéo.
Non, mais vraiment, c'était ça me le fait, c'est la première fois que ça me le fait vraiment comme ça. C'était vraiment l'Uncanny Valley où t'arrives plus à différencier pour
propre.
Moi le
c'est méga propre, c'est méga bien fait. Life Hutch, c'est incroyable. Celui avec Michael B. Jordan là, vraiment on peut croire que c'est vraiment lui quoi, vraiment . Il est hallucinant de beauté cet épisode, mais il est pas hyper intéressant, mais il est super beau quoi.
C'est un peu faible au niveau histoire, mais
bon, on dirait
que c'est magnifique.
Je trouvais ça très beau, j'ai trouvé ça Ouais, ça m'a rappelé Mad Max Star Wars. J'ai bien aimé ta description initiale. Et effectivement,
pour initial, après... pas la fin.
Et après, oui, la thématique est aussi intéressante sur la survie. J'ai l'impression que c'est un tronc commun un peu de tout ce qu'on a, de tous les épisodes qu'on a décrits jusqu'à présent, qui plus est. Donc, la réflexion sur la mort, l'humain, etc. Donc, du coup, très cool, effectivement, d'une propreté incroyable, quoi. Donc, très, très beau.
Et c'est français.
C'est
déjà bien qu'il y ait un studio FR là-dedans.
Moi, il m'a pas emballé l'épisode.
Pour traiter de beaux sujets, comme tu viens de nous l'expliquer, il faut être français, quoi. Là,
c'est moi qui ai écrit une partie du scénar, hein. C'est normal, vous vous rendez bien compte.
Ah, bien sûr.
Et pourquoi
t'as dit, Romain, il nous faut un truc exceptionnel. J'ai dit, bah, des boules, les gars. Vous voulez quoi
d'autre? On a vu la patte. Ouais, non, ça m'a moins plu parce que finalement, ça traite un peu de de la même logique de c'est quoi l'immortalité, qu'est-ce que ça veut dire et comment tu la convoites et tout. Mais tu as pas du tout la vie intérieure des personnages, quoi. Là, t'es vraiment plus dans c'est une espèce de course-poursuite. Le mec, il est recherché par tout le monde. Tu vois que, je crois que tu l'as pas dit, mais le cyborg, justement, elle est envoyée par l'ONU, si je dis pas de conneries.
Ouais,
voilà, France. Elle vient de la Terre et elle est mandatée par probablement l'organisation qui gère la Terre et dans le but de se dire il faut pas que ça tombe entre de mauvaises mains et tout ça. Donc il y a un truc un peu géopolitique mais pas particulièrement développé. Et d'ailleurs dans l'histoire en fait on s'en fout, ils sont juste tous les deux contents ils vont vivre pour toujours et c'est assez cool d'avoir un compagnonnage comme ça quoi. Donc je trouvais que c'était peut-être trop sur la vie intime et personnelle des deux personnages principaux et pas tant sur le reste, donc c'est pour ça que ça m'a un peu laissé sur ma faim.
Il y a très peu de sous-texte dans celui-là en fait, quoi. C'est très brut.
Sous-texte. Mais je pense que l'objectif ça aurait été, s'ils avaient plus de temps, de se concentrer plus sur les personnages individuellement et de raconter vraiment leur histoire, leur point de vue, plus qu'une vraie plus que des vrais thèmes super importants sous-jacents. Mais bon, effectivement, vu que c'est un petit format, tu peux pas vraiment faire ça sur le truc. Mais typiquement pour moi, c'est celle qui pourrait le plus faire une bonne vraie série, dans le sens où tu pourrais vraiment t'attarder sur leur univers et sur les personnages individuellement.
C'est une aventure, quoi. C'est un peu un Mad Max aller-retour. Enfin, moi, j'aime bien aussi les trucs, les snapshots comme ça. Et finalement, tu vis le truc à donf, tu te poses pas trop de questions sur les backstories et puis tu vis quelque chose. Oui. En gros, ça marchait bien. Enchaînons, les amis, parce que nous sommes déjà à 30 minutes et nous avons le jeu de Romain à la suite. Moi, je vais vous parler très rapidement de Automated Customer Service. Alors, c'est un truc qui m'a fait penser un peu à la Wall-E, qui m'a fait penser à l'intelligence artificielle dans laquelle j'ai travaillé. Nous avons aussi travaillé avec Olivier sur ce sujet. Donc, forcément, il y avait quelques éléments. Et la question sous-jacente, c'est et si les robots nettoyeurs se rebellaient et devenaient des robots tueurs? Et ça, c'est vraiment, quand je me réveille le matin, c'est un truc auquel je pense. Je me dis, putain, mon Roomba, s'il se met à quatre pattes et qu'il commence à me défoncer, je pense qu'il gagnerait d'abord. Et ça m'inquiète, quoi, pour l'avenir de l'humanité. Donc, quelque part, cet épisode traite de ça. C'est dans le futur, il y a des petits vieux qui sont tranquilles en train de faire du yoga et tout d'un coup, il y a le VacuBot, donc un espèce de petit robot nettoyeur qui fait quand même pas mal de trucs. Il est un peu mieux que le Roomba. Il commence à péter un plomb et il y a Jeannette, qui est la mamie qui était en train de faire ce yoga tranquillou bilou, qui flippe sa race. Et elle appelle le customer service. Et là, le customer service, alors là, attention, on est sur pire que Soch, on est sur pire qu'EasyJet, on est sur pire que tous les pires customer service que vous avez. Ils lui disent, écoutez, essayez de le débrancher, essayez de le reboot, etc. Et ça ne sert strictement à rien. Le robot est en train d'essayer de bouffer son chien, de lui tondre. À un moment donné, il a un laser, je ne sais pas pourquoi un robot nettoyant a un laser, mais lui tond littéralement le crâne. Et il a fallu que son petit voisin, alors petit amourette, on est sur le thème de l'amour avant tout, qui draguait Jeannette, Bill, arrive avec un bon vieux 22 long rifle et tire dans la tronche du vacuum bot. Et c'est l'humain Terminator face à la machine et c'est l'humain qui l'emporte. Et ça, j'aime bien ça, parce que les machines, si vous entendez ce podcast en 2072, on va vous faire la peau. Et du coup, c'est assez sympa, mais on se rend compte que finalement, en agressant le vacuum bot, elle a mis en run l'intégralité des IA. Et là, ça part en cacahuète. L'intégralité des IA de ce petit centre de petits vieux commence à poursuivre Jeannette qui se transforme en badass. Mon gars, Jeannette, elle attrape une petite voiturette, elle fonce à donf avec Bill et ils vont vivre leur meilleure vie de rebelles face à l'IA, donc l'avenir de l'humanité, Bill et Jeannette face aux machines. Et ça, pour moi, c'était une belle aventure. Pour le résumer,
ouais.
Il n'y avait pas de boule. Mais
c'est dommage. Non. Moi, c'est ce qui me dort. D'ailleurs,
c'est sous-entendu
encore,
quand même. C'est sous-entendu.
C'est encore un studio FR, c'est Atoll Studio, c'est les Niçois.
Atoll,
pas mal. Non.
Moi, ce qui m'a dérangé dans celui-là, c'est le graphisme, c'est l'anime. J'aime pas trop ces dessins grosses têtes, petits corps. Ça me rappelle toujours cette animation canadienne. Je me rappelle plus du nom là.
Les grosses têtes. Je crois que c'est les grosses têtes, non?
Ah, ça. Ça me rappelle.
Non, les casse-têtes.
Ça,
les casse-têtes.
Les casse-têtes, ouais. Et ça me rend.
Un truc du genre, je vois.
Ça me gêne un peu, ça me fait mal au ventre un peu, tu vois.
T'es sensible du. Ok, très bien.
Mais sinon, l'histoire était rigolote.
Olivier, t'as bien aimé toi aussi, hein?
Alors, non, moi j'aimais bien la ref parce qu'on a bossé sur des trucs de service, des problématiques de service client. L'épisode en tant que tel m'a fait marrer, je l'ai trouvé assez drôle. En fait, je trouvais qu'il avait pas mal d'humour,
il était fun.
Cool. Ah oui. Ouais, il était fun. Après, j'ai moins le côté NRA, tu vois, en mode ouais, on a tous des gros guns et c'est trop cool. Ça, c'est d'une manière générale, c'est pas le truc qui me fait rêver de ouf, parce que tu vois, on se dit il doit être à Miami ou je sais pas où, enfin tu vois, dans un truc un peu de Floride, de retraité, et avoir des guns aux US, c'est quand même vachement cool. Donc ça, c'était un propos qui parle moins pour moi, mais après sur le reste, j'ai trouvé ça marrant quoi.
Mais pour le comité.
Voilà, ça forcément pété puisque tu te dis et pourquoi il a un laser le machin c'est quoi le
bordel en fait si t'as ça t'as ce côté genre tout l'épisode tu te dis mais attends mais ça n'a ni queue ni tête que ce robot nettoyeur une puissance de feu aussi forte et en fait si parce que dans les 10-15 dernières secondes du truc bah tu comprends tout à fait de quoi il s'agit c'est la grosse entreprise la corporation qui est en mode oui bah en fait c'est très simple soit tu payes pour être sur la liste blanche
exactement,
soit en fait on te bute et en fait c'est logiquement été créé comme ça les robots quoi pour te faire
ce propos là m'a fait marrer l'extrême consumérisme qui était rigolo ça m'a rappelé un peu le film Netflix que j'ai pas trop aimé les Mitchells d'animation
pas aimé les Mitchells je te parle plus fini
ouais, j'ai pas trop aimé
wow.
Et donc le principe des Mitchells c'est une famille qui doit survivre et pareil t'as un espèce de soulèvement de robots qui opère et qui commence à s'en prendre à toute l'humanité et donc en fait il y a vraiment un peu le même concept pas mal d'humour je pense que j'ai préféré la petite série que les Mitchells.
Ouais, le côté humour, j'ai bien aimé aussi. Enfin, c'était un peu plus relax que les autres. Par contre, comme Romain, visuellement, j'ai pas accroché.
Ah ouais, ça, c'est dur.
Pour moi, c'était surtout que c'était ultra creepy. Moi, la mamie me terrorise. J'en fais des cauchemars depuis. c'est une horreur. Ah non, mais, ouais, non, j'accroche pas du tout avec le choix de design et ça m'a un peu décroché le truc. Mais par contre, c'était fun, ouais.
Ouais, moi, je me suis marré. Au moins, ça contraste avec le truc qui est relativement noir dans quasiment tous les autres. Donc, du coup, moi, ça m'a fait poiler. Et rien que pour ça, je le mets numéro uno.
On est d'accord que ça enchaîne. Attends, je te coupe juste deux secondes. Ça enchaîne directement avec Ice. Est-ce qu'on est d'accord que c'est le plus mauvais de tous?
Ice, j'ai détesté vraiment.
Je suis pas d'accord, moi.
Je l'ai pas du tout aimé.
J'ai pas compris ce que tu voulais dire, en fait.
Je trouvais ça naze.
C'est lequel, déjà?
C'est celui où il y a un frère. Tu sais, on est sur une autre planète, il y en a qui ont des super pouvoirs.
Ah non, il est beaucoup trop bien.
Ah, moi, je l'ai détesté.
Moi, j'ai pas aimé aussi.
Je me suis emmerdé.
Beau, onirique.
Non, mais ça, c'est beau. Par contre, c'est
beau. Ouais, très onirique.
Bienvenue à Gattaca Life. Ah non. C'est ça.
Ah ouais.
C'est bienvenue à Gattaca, tu sais, c'est même en étant modifié, au final.
Ah, j'ai trouvé l'intrigue hyper plate. J'ai trouvé ça naze.
Non, mais le propos est génial, en fait. C'est justement ça. C'est que c'est un truc complètement banal de ta vie qui, pour eux, c'est des êtres extraordinaires.
Et pas tous.
Lui,
mais le propos, c'est qu'il y a un des frères qui est boosté et l'autre qui ne l'est pas. En fait,
c'est ça. Ouais. Et du coup, pour un truc qui paraît complètement banal pour les augmenter et complètement héroïque pour lui, et son héroïsme, il dure une demi-seconde parce qu'en fait le gars il est blessé il va le sauver tu sais avec la scène classique un peu va sauver le soldat et dans la seconde d'après le mec il peut remarcher parce qu'en fait
alors attends
ils sont boostés à ce point là quoi.
Je suis pas sûr que ce soit ça qu'ils te disent. Je pense qu'ils te disent que le frère s'est volontairement cassé la gueule pour lui laisser un moment de briller en fait. Je suis pas sûr à 100% mais c'est comme ça que j'ai un peu compris.
Oui, c'est vrai qu'il y avait cette
mode aussi, lui qui réalise mais en fait
je me suis posé la question. Je pense qu'en fait, ils te répondent pas. En fait, tu sais pas. Tu t'as doute. Ça peut être l'un ou l'autre. Soit, en gros, ils sont tellement cheatés que le problème est pas un problème pour très longtemps. Soit, en fait, effectivement, c'est un espèce d'acte de.
Un petit clin d'œil.
Vraiment de pitié, finalement. Ou c'est encore plus pathétique pour le mec qui n'est pas boosté. Et ça pose des questions hyper cool. Elle a bienvenue à la Gattaca. Non, moi, j'ai trouvé l'épisode.
Après, Je pense que c'est un côté touchant aussi, parce qu'il te montre une relation avec les deux frères qui est un peu compliquée, avec l'un qui est une prouesse technologique où les parents sont super fiers et l'autre pas du tout. Et tu vois qu'ils ont une relation qui est un peu compliquée parce qu'ils vivent en mode le mouton noir et l'autre. Et je pense que c'est intéressant ce développement en mode au final, l'autre lui montre qu'il care à sa façon. Et émotionnellement, il y a un truc qu'ils essaient de montrer, je pense. Et par contre, visuellement, c'était mon style visuel quasiment préféré du tout. Je pense que c'est pas le plus travaillé aussi, mais j'ai beaucoup aimé
les couleurs
et ce que ça rendait visuellement, quoi. Ouais, les couleurs, ouais. L'animation. Il y a une scène où il y a le frère là qui pousse un espèce de cri avec de la buée qui sort de sa bouche. Je crois que c'est d'ailleurs plus ou moins l'image du teaser du truc. Et j'étais captivé.
Avec la main sur la vitre.
C'est le même genre.
Et Benjamin, juste avant de passer au jeu de Romain, juste Benjamin, toi tu nous confiais que tu n'avais pas du tout accroché avec ça. T'as pas été très vocal, mais enfin t'as pas été genre dégoûté de tout ça. Toi t'en retiens un truc chiant quand même. T'as pas kiffé.
Non, c'est ce que je disais en fait, c'est que j'allais pas forcément être véhément parce que j'ai pas eu de vrai problème en soi avec la série, que j'ai trouvé globalement très jolie, avec certaines fois des textes, des sous-textes qui m'intéressaient. C'était juste que sur un one shot de 10 minutes, quand je commençais enfin à goûter à un truc qui me disait ah là ça commence à avoir bon goût, crédit de fin, et j'étais en mode fais chier quoi, parce que en fait finalement je suis en train de me hyper et ça retombe instantanément. Je sais pas comment dire, j'ai l'impression que c'était sûrement que mon ressenti à moi, mais pour moi je l'ai vu comme ça. C'était
ce que disait ton ex. Non, je suis obligé de la faire. Non mais je suis obligé. Moi je suis dans le truc des boules. Alors ça retourne.
Ouais, non mais écoute,
je n'ai pas le choix.
Allez faire. J'accepte.
C'est pour ça, ça te fait un PTSD en fait.
J'accepte.
Et depuis tu peux plus. Voilà, je comprends.
J'accepte. Non, mais c'est ma dernière participation au podcast. Mais
c'est quand Romain il se lance dans la blague, il commit dedans et après
je termine.
Ouais, c'est
mais
ça.
Romain, l'apéro avant, faut éviter. C'est.
Trop de café.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Et du coup, ça m'a laissé un goût de... Finalement, j'ai l'impression que c'était un épisode qui pouvait, avec un matériau pour en faire 25, qui a été coupé à la moitié parce que c'est le format de la série, et que moi, j'étais en mode, non, mec, là, tu peux pas faire ça.
C'est l'inverse de Zack Snyder, quoi.
C'est un peu ça, ouais.
Après, je pense qu'il faut le voir... Love, Death, Robot, je pense que c'est avant tout une espèce de promotion des studios d'animation,
voilà,
clairement. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est eux qui peuvent mettre en mode regardez ce qu'on peut faire, engagez-nous, quoi. Après, j'imagine qu'il y a un peu plus que ça derrière, mais je ressens un peu quand même.
Ah, c'est même pas ça, en fait. C'est de l'autopromotion, parce qu'en fait, à la Réa, on a Tim Miller, donc qui est le Blur, qui est la Blur Studio lui appartient. Et on a Fincher de l'autre côté. Mais en fait, Blur Studio, ça doit être, je sais pas, 7 épisodes sur 10. Donc, c'est une autoprom. Enfin, c'est carrément ça, quoi.
Mais c'est stylé, on en retiendra des graphismes, des émotions et des boules. Romain, enchaîne, j'espère.
Merci.
Que le jeu n'est pas... Enfin voilà, que...
Ah bah ça tourne sur les boules, hein, pas le choix.
Les meilleures boules dans les films.
Ah, dans des films moins de 18. Alors
j'ai hâte qu'il donne l'Oscar des meilleures boules ou le Emmy, c'est le Ball Award.
Ball Award.
Ça va être pas mal.
C'est ça qu'on fait en fin d'année avec Critique Biaisée, le Ball Award.
Non, beaucoup plus simple, beaucoup plus simple. On crée les Golden Globes.
Pas mal.
Voilà.
Allez,
c'est tout pour moi.
Allez, alors le jeu où Olivier n'a jamais perdu, même quand il n'est pas là, il ne perd pas. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Je prends des critiques sur Allociné, souvent des critiques où les mecs savent pas écrire, où ils mettent zéro, on n'a pas trop de fond, c'est bien biaisé. Aujourd'hui, j'ai pris que des films d'animation, donc animation en tout genre, il y a du dessin animé, il y a de l'animation, il y a du japonais, il y a un peu de tout.
Allez, c'est mon moment de briller.
C'est donc le jour où je perds, c'est sûr.
C'est peut-être le premier est très simple, ça devrait aller très vite. Je rappelle que tout pré-shot, si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est -1. Et on dit son prénom. Et je dis à qui parler. Voilà, merci. Alors.
Benjamin.
2,5 sur 5 pour ce premier. Il était moyen, mais ça va. Le film part d'une très bonne idée. Voir le monde à travers des jouets. Malheureusement,
Thomas, Olivier, Pierre.
C'était Thomas.
Toy Story.
Eh bien, voilà, j'ai dit qu'on...
Lequel?
Pas le premier.
Toy Story 1.
C'est ça, le 1. Bravo. le deuxième est simple aussi. Ça va aller vite, hein, parce que franchement, au troisième mot, vous avez compris. Hein. Mais c'est 1-0. Le mec a pas du tout kiffé, quoi. Alors, tout simplement navrant. Un ogre qui pète et ça fait toute une salle.
Benjamin.
Shrek.
Putain.
Eh ouais. Un ogre qui pète, ça fait rire toute une salle, on appelle cela un film. C'est juste bien fait au niveau des images, mais il faut avoir le courage de le finir. J'arrive vraiment pas à comprendre le succès de ça, même en le prenant au troisième degré.
Il a beaucoup d'humour, cette personne.
Ouais.
Ah ouais, il a pas totalement tort. C'est vrai. En fait, le film, c'est vrai, donc il pète.
C'est énorme, mais pour le coup, je suis assez d'accord. Hein.
Moi, c'est mon délire. Moi, ça fonctionne.
Allez, on enchaîne. 1-0, toujours. Ça va être un peu plus chaud, mais vous allez pouvoir l'avoir. Je ne sais pas si on peut qualifier cette chose de film. Ça n'arrête pas de chanter durant tout le film, ce qui est très agaçant. Il n'y a rien d'intéressant. C'est vraiment trop nul. Inutile de commenter davantage ce navet. À éviter absolument.
Thomas ?
Bah, ouais.
La Reine des Neiges ?
Non. C'est assez stylé. En vrai, c'est un bon dessin. Moi, je trouve ce truc exceptionnel, mais c'est... C'est la période
du dessin
animé, c'est Noël. Non, c'est pas un Disney. C'est quelqu'un
c'est
qui...
Disney, ouais.
L'Oréal, il fait des films d'habitude.
Films d'animation.
L'Oréal, son nom, c'est aussi une marque de vêtements. Oh les gars,
Thomas,
merde.
Ouais. Nike.
T'as un Réal qui s'appelle comme ça.
Je sais pas.
Pierre.
Ouais.
Y avait pas un truc d'animation sur Noël qui s'appelait Klaus ou un truc comme ça?
Si, sûrement, mais c'est pas ça.
C'est Benjamin pas... Benjamin.
Ouais.
L'étrange Noël de Monsieur Jack.
Ah, voilà. C'est bien, Tim Burton, les gars.
Évidemment.
Je me souvenais pas que ça a chanté tant que ça, mais ok.
Ah bah, c'est une comédie musicale, quasiment.
Bah, c'est comme beaucoup de films d'animation de l'époque, ouais. Américain.
Allez, on continue. Excellent. Toujours 1-0.
T'as Benjamin en tête.
Ah oui, celui-là, je l'avais pas oublié. Ça va aller vite, je pense aussi. Je n'ai pas pu aller au bout du film. La magie n'opère pas du tout. Le petit garçon gras ne m'a pas attendri et le vieux bougon ne m'a pas amusé.
Benjamin.
Olivier.
Là-haut.
Benjamin.
Là-haut. Ouais, là-haut.
et Benjamin, il vous met une branlée.
Putain, mais les trucs d'animation.
C'est mon heure, c'est mon heure, putain.
Il y en a un autre qui est assez simple si vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, ça va être plus chaud. 1/5. Je n'ai pas vraiment aimé. Déjà, des animaux qui ont l'air d'être empaillés qui parlent, j'ai eu du mal à m'y faire. Mis à part ce côté gênant, j'ai pas trouvé la magie, la petite étincelle
Thomas,
qui émerveille.
Ouais. Olivier ? Chicken Run ?
Ah non, dommage Thomas. Du coup, tu passes
à
0.
Non.
Olivier, tu veux tenter ou t'abandonnes ?
Ouais, je vais tenter, mais de toute façon, je suis à 0. Madagascar ?
Pas du tout. Il y a des animaux empaillés dans Madagascar ?
Je sais pas.
Du coup, c'est terminé de toute façon. L'humour ne m'a pas combattu non plus, dommage. Les animaux empaillés sont de couleur. C'est assez connu en vrai. C'est le type d'animation, je crois que c'est une sorte de stop motion. C'est peut-être pas du stop motion.
Ah oui, en fait, c'est pas du Chicken Run.
Olivier, vas-y.
Tu peux tenter maintenant, de toute façon. C'est des animaux qu'on trouve dans la forêt. Enfin, il y en a beaucoup. Ils sont de couleur orange.
Non, mais il a dit que c'est du stop motion, du coup. Tu sais, ça me fait penser les trucs en pâte à modeler, les
ça
trucs.
Ça fait vraiment un animal empaillé, il a raison quand il dit ça, tu vois.
Et c'est pour ça que tu.
Ah oui, je sais.
C'est parfait, putain, je suis deg.
Je sais, Olivier. C'est la pub pour le poulet de Gaulois.
C'est ça. C'est ça, bravo.
Allez, là.
Ah merde, j'ai sur le bout de la langue, mais.
Comment je peux vous aider plus? C'est vraiment. Il est roux, l'animal.
Tu peux me PM le titre?
Ouais, je te l'envoie.
Ah là, c'est bon,
les gars, ça, là. C'est Fantastic Mr. Fox.
Ah non, j'ai jamais vu.
Oh, j'aurais jamais trouvé.
J'ai aucune idée de ce que c'est.
Quoi,
vous l'avez jamais vu
idée de ce que c'est.
Non. Mais non.
Ah ouais, non.
Ouais,
c'est
bon.
Pas ça. Que...
Voilà. C'est trop bien, Fantastic Mr. Fox. Pas grave, hein. Tant pis. Je crois que c'est le dernier. De toute façon, il y a que Benjamin qui a mis des points. Benjamin a 3 points, Thomas a moins 1.
C'est Maître du Monde, peut-être. C'est Maître du Monde, là, sur
ouais,
la dernière.
Ouais, c'est pas la question.
Oh, attends, c'est un peu dégueulasse, ça.
Mais c'est tout le temps comme ça, mec.
Ouais, mais là, l'écart est trop fort.
Benjamin, je pense que tu peux le mettre même en maître du monde. Est-ce que tu veux le tenter?
Ah, c'est lui qui décide.
D'accord. Non, non, bah, il faut.
Comme vas-y, 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 vas-y. Allez, vas-y.
Là, il y a 3 à moins 1.
Le mec remet
Olivier, non, mais oui, parce que... va réussir t'façon... à gagner, du coup.
De toute façon, s'il le fait pas, ça serait. Tu sais, ça ferait mauvais joueur, tu dirais.
Bah, c'est
ça, jouer par la petite porte.
C'est ça.
Et Benjamin, tu le connais.
Moi, j'aurais fait une direct.
Romain,
tu es sûrement celui que tu connais le plus ici.
Tu ne cut pas Benjamin pour mettre la réponse d'Olivier en premier.
Bah, là, on va. Alors, c'est 1-0. Quoi? C'est une blague, ce film. On m'avait dit qu'après l'avoir vu, je serais traumatisé et que je pleurerais toutes les larmes de mon corps. Eh bien, c'est tout le contraire qui est arrivé. Je me suis ennuyé à un point devant ce film.
Benjamin.
Et la fin ne m'a fait ni chaud ni froid.
Le tombeau du ciel.
Eh oui!
Allez!
Wow! What?
Eh ouais,
je m'incline.
Le mec est maître du monde.
C'est beau, il a gagné.
Le pire, c'est que j'ai pensé, mais j'avais peur que tu nous mettes un Ghibli genre Spirited Away ou un truc comme ça, et du coup, je voulais plus d'infos.
Là, je voulais pas un truc trop dur quand même.
T'as joli.
Tombeau des Lucioles.
Bravo Benjamin.
Benjamin, c'était ton épisode.
Mon dimanche est beau.
Ouais, c'est ouf.
Non mais c'est cool. Dès qu'on parle dessin animé, t'es là, c'est cool.
Alors, tu dis plus jamais dessin animé, espèce de sale.
Bonne ambiance. Ok, merci Romain, Benjamin, félicitations pour ton titre. Nous enchaînons rapidement avec la reco de fin. Si vous avez des choses à partager à nos auditeurs, lancez-vous. Qui a quelque chose à dire, peut-être
Alors, j'ai une anti-reco.
Benjamin.
Okay. J'ai une
anti-reco.
Alors, vous savez, je suis en ce moment en train de regarder une série. Je suis dans ce mood où je sais très bien que ce que je regarde, c'est vraiment pas ouf du tout. Mais juste, je le regarde parce qu'il faut que je sache comment ça termine. Mais vraiment, c'est plus.
Attention, ce que tu vas dire, c'est peut-être ma reco du coup.
C'est un chemin de croix. Pour l'instant, c'est plus un chemin de croix, tu vois. C'est la série Netflix Qui a tué Sarah.
Ah, je peux.
Qui a matado Sarah.
Pareil, c'est bien.
Et bah mec, vraiment, hein, le problème c'est que je vais être.
C'est espagnol.
J'ai pas envie de le dire. Mais en fait, c'est peut-être un problème que je retrouve dans trop de séries espagnoles que je regarde récemment. C'est
qu'il parle espagnol.
C'est
joue comme des patates.
Non, même pas. C'est même pas si mal joué. C'est juste que on prend des acteurs corrects. On prend. C'est plutôt joli. C'est le fil rouge est intéressant. Par contre, autour de ça, le scénario, bah non, on se torchait avec. On l'a mis dans les chiottes. C'est t'as plein de moments où tu te dis non c'est pas possible.
Donc ça, c'est ta reco?
genre par exemple
c'est l'anti-reco.
Voilà, c'est l'anti-reco. genre pour un exemple
simple, comme moi
notre héros qui va essayer de se venger d'une famille et fomente son plan et va agir contre cette famille dans un lieu où tout le monde sait qu'il l'a. C'est-à-dire qu'à tout moment, dès le début, tu vois ça. C'est-à-dire qu'à tout moment, quelqu'un de la famille arrive, lui tire une balle dans la tête. Et c'est réglé, la série se termine. Mais personne ne le fait, tu vois. Et t'es en mode, bah,
non. Ouais, ça donne pas trop envie.
T'as vu la fin ou pas?
Non, pas encore, il y a deux saisons, et là je suis dans le milieu.
Parce que je sais qu'Altea l'a vu, et plutôt, et bon, ça c'est pas une référence. Mais
c'est pas mauvais.
Mais on disait que la fin était assez. La fin était assez.
On va avoir une note, étonnante. Une étoile, quoi, t'es chiant.
Altea, on t'aime. Altea, non, s'il te plaît.
Altea, l'écoute pas.
C'est pas une référence.
On aime ça.
À soir avec Romain, quoi.
Il continue.
Enchaînons, Olivier.
Ouais, moi ça va être une reco courte comme d'habitude. Je vais parler d'une chaîne YouTube qui s'appelle Le Vortex, qui est en gros Arte qui fait en fait si je dis pas de conneries, c'est chaque année, ils mettent plein de YouTubeurs qui font de la vulgarisation. Ils les mettent ensemble dans un appart, dans une baraque, etc. Et ils leur font faire des contenus un peu croisés et c'est assez cool. Donc ça, c'est une chaîne qui s'appelle Le Vortex. Et l'épisode dont je voulais vous parler, c'est un des derniers qui est sorti, dont j'ai trouvé le sujet assez intéressant et notamment dans la lignée de tout ce dont on a parlé dans les films qu'on a commentés récemment, qui est les super-héros sont-ils tous de droite? Et je trouvais la question vachement intéressante. Et c'est vachement cool. Et il parle du coup de pas mal Marvel et DC et des personnages assez iconiques. Donc je conseille vraiment les super-héros sont-ils tous de droite? Spoiler, quand même pas mal. Hein. On va pas se
mentir. Quand t'as dit ça, j'ai une image mentale de Jean-Marie Le Pen avec son slip par-dessus son pantalon sur une tenue. Et là, je me dis.
Il y a vraiment des kings bizarres, Pierre.
On est sur l'imagination prolifique.
Ta vie sexuelle ne regarde que toi.
Non, mais peut-être c'est le prochain épisode de Love, Death and Robot et Facho.
Love, Death and Le Pen.
Love, Death and Facho. Ok, Romain, une reco.
Ouais, non, pas de reco spécial, mais juste la petite news de la semaine quand même. Il y a quand même Amazon qui a racheté la MGM.
Exact.
Pour 8 milliards. Huge. Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Je sais pas. Est-ce qu'on aura des séries de James Bond? Je sais pas. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Voilà, c'est juste.
Je pense tout ça. On va avoir tout ça. Ils vont refuser le catalogue, je pense, et ils vont créer toutes les IP qui sont cool. Ils vont les développer de ouf, je pense.
Ouais, y a sûrement. De toute façon, pour 8 milliards, vaut mieux. Mais
la prochaine fois, on pourra se mater tous les James Bond d'un coup en binge-watchant.
Ça, c'est ouf, en vrai.
Ça peut être ton Joker, Benjamin, si tu le souhaites.
Tous les James Bond.
mais en vrai, le problème de Prime, au-delà du catalogue, je trouve, c'est que la pub, la manière dont ils en parlent et tout, c'est pas foufou. Parce qu'il y a quelques séries qui sont vraiment chambées sur Prime.
Tu traînes pas, c'est sur Twitter. Parce que la pub, mon gars, je la vois.
Ah ouais, putain, parce que moi,
sur Twitch,
on n'entend jamais parler.
Je te jure, même ils font que sur Twitch.
Oui, mais Twitch,
c'est à
partir d'Amazon.
Ouais. Non, mais je sais, mais justement, la pub, on en voit là-bas, ils en font à la blinde, quoi.
Ils en font pas mal sur Twitch.
le okay. target est un peu différent.
Mais tu vois, ailleurs, tu prends.
Ah oui, non, mais ailleurs,
je suis à Paris, tu prends le métro, tu vois rarement des pubs pour Prime. Même les séries, elles sont rarement autant médiatisées que les autres. Et pourtant, ils ont quelques créas qui sont vraiment.
Ah oui, il y a des trucs
et là, je pense que ça va vraiment augmenter, parce que le catalogue, à certains endroits, il est un peu pauvre. Donc, c'est plutôt une nouvelle.
C'est plutôt une bonne nouvelle. Cool. Ouais. Mais c'est la guerre. C'est la
même
guerre des
si...
plateformes de streaming.
Bon, toute la MGM, ça allait pas super bien. Donc, autant le racheter, de toute façon.
Bah ouais, c'est ça.
De manière.
Ça crée une deuxième vie, mais ouais. tout va se faire
mais en sorte que ce soit cette rumeur aussi de Disney qui doit racheter DC, ça revient tous les ans. Je pense qu'à un moment, ça va décaler ça aussi. Mmh. ils vont nous relier DC et Marvel, on va avoir des délires après.
Mais ils sont obligés de
prendre crossover.
Allez, on enchaîne parce qu'on est bientôt à 1h. Pierre, est-ce que tu as une reco?
Alors, oui, moi je me suis dit que j'avais envie de copier Olivier. Et du coup, je vais partir d'une de mes chaînes YouTube préférées. De copier Olivier aussi, parce que c'est également de la vulgarisation scientifique. C'est assez connu, mais c'est en anglais.
C'est le
Vortex. Ça s'appelle Kurzgesagt, in a nutshell. Et c'est assez ouf, je trouve. Ça prend beaucoup de thèmes. Ça peut être scientifique, cosmologie ou sociale, etc.
Horoscope. Et...
Non, pas horoscope, justement.
De religion. Ça, tu peux vraiment aller loin dans la théologie.
Exactement.
C'est des trucs scientifiques. Que des
mais qui les prend avec une animation qui leur est assez propre, qui est super jolie d'ailleurs, qui est très simple, mais qui prend vraiment. Et une narration super. Le mec a une voix incroyable. Les thèmes qui sont abordés sont plutôt intéressants et a priori ils en parlent dans un de leurs épisodes. Il y a un taf de recherche et de sourçage qui est assez fou. Je recommande vivement. C'est vraiment une très très bonne chaîne.
Ok, le nom rappelle quoi?
Je ne connaissais pas.
Kurzgesagt. Alors oui, le nom il n'est pas très facile.
T'es sûr que c'est anglais?
Ouais,
c'est anglais. Non, c'est anglais.
Ok, et pour ma part, ça va être beaucoup moins intelligent pour conclure, hein, évidemment. Ragnarok saison 2, allez-y. Série voilà, qui est nordique, hein, moi j'aime beaucoup. Le mythe de Thor, le mythe des dieux, c'est très scientifique, foncé. Si vous aimez les teen stories et le côté un petit peu dieu, allez-y, foncé quoi. Voilà, les amis, la semaine prochaine, c'est l'apéroco, comme d'habitude. Et dans 15 jours, nous allons faire le premier Joker de cette saison. Pierre nous a imposé de regarder Batman and Robin, le film de 97
Schumacher
et en VF dans le texte. Donc l'équipe va être contrainte et forcée de regarder ce petit bijou de la technologie de l'époque. C'est une petite merveille, hein. Regardez-le avec nous, hein, si vous voulez passer un bon moment d'une heure 37, je crois. C'était assez court à l'époque. Moi, j'avais vu sur Laserdisc.
Je crois qu'il est long.
Vieux.
Mais bon, après, je veux pas faire de mal.
Il est un peu long, mais ça reste le meilleur Batman. Et je pense que ça va être une leçon pour Snyder, tu vois, en mode voilà
là,
comment
sûr.
On fait Batman. Et je pense que ça, c'est important.
Enfer. On n'a jamais vu un aussi bon méchant, enfin, je veux dire.
Eh non, c'est le meilleur vilain de tous les temps.
Rendez-vous dans 15 jours pour passer un bon moment avec nous autour de Batman and Robin VF Edition. En attendant, nous vous souhaitons une excellente semaine et nous faisons des poutous. Ciao, ciao.
Bisous
tout le monde.
Ciao, bonne semaine.
À plus.